je pourrais développer.
Allez, on n'oublie pas la santé. On n'oublie pas la santé. 17 000 lits de détruits depuis 2017. Donc le retour à une santé pour tous, réelle et vraie. Voilà, sans mégoter aussi. Et on fait un petit coucou à tout le personnel de santé qui est toujours sur la brèche. Voilà, je vous remercie pour cette émission acétone d'entre deux tours. On aura l'occasion sûrement les uns et les autres de se recroiser après le deuxième tour des élections législatives. Je termine l'émission là-dessus parce qu'il est 18h30 et on va terminer comme d'habitude avec la petite phrase assez. Le monde changera sans fin. N'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile et surtout pas récupérable, ni rééducable, d'y rester face à l'injustice. Ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté, sans oublier partisan. Et je crois que c'est en pleine lumière aujourd'hui avec la perspective de ce deuxième tour. Allez, à que ciao, bonsoir, à la prochaine, à mercredi prochain, exceptionnellement.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. La consolidation d'un front populaire face à l'extrême droite ne peut se faire qu'à une seule condition, celle d'un véritable front antiraciste. Il est urgent et vital pour la gauche que le ciment de son union soit à la hauteur de leurs desseins racistes, xénophobes, islamophobes, antisémites, asiophobes, négrophobes et anti-tziganes. Ce sont les mots d'une tribune publiée la semaine dernière dans le journal L'Humanité et titrée « Appel pour un front antiraciste populaire ». On reçoit tout de suite dans le plat de résistance l'une de ses autrices et signataires, Douce Dibondo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante afro-queer féministe, journaliste, écrivaine. On vous doit notamment la charge raciale, vertige d'un silence écrasant, et aussi productrice d'un podcast Extimité. Et vous êtes donc signataire de cette tribune pour un front antiraciste populaire. On avait envie de parler avec vous de l'antiracisme, d'où il en est aujourd'hui et dans cette situation avec cette montée de l'extrême droite. Peut-être d'abord, pourquoi cette tribune et racontez-nous un peu comment elle est née.
Oui, alors cette tribune, en fait, elle naît de l'absence de mesures antiracistes concrètes auprès de notre propre camp, évidemment. Donc nous, on s'adresse à la gauche en laquelle on croit, à la gauche pour laquelle on appelle justement à faire front populaire et on appelle au soutien et au vote pour le nouveau front populaire. Sauf que où nous, on met le bémol, c'est cette absence de mesures concrètes dans le programme du nouveau Front populaire. Donc, dès qu'on a eu le nouveau Front populaire, le programme entre les mains, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument le nuancer, l'amender et monter en complexité pour qu'en fait les gens comprennent à quel point la gauche, le nouveau Front populaire ne peut pas faire sans les personnes racisées. Donc il était important pour nous de mettre l'accent sur des mesures concrètes, d'où la tribune qui fait appel à un front antiraciste populaire, mais qui donne aussi à voir 12 mesures concrètes pour comment alléger la vie des personnes racisées. Et donc, on s'est réunis comme ça de manière tout à fait informelle. Il y a plus de 200 personnes qui se sont réunies sur WhatsApp, sur différents groupes, et très vite cette idée en effet de remanier le programme du Nouveau Front Populaire a été une évidence. Et quelques jours plus tard, après des insomnies, après voilà des batailles pour publier cette tribune, l'Humanité l'a fait, et voilà où nous en sommes désormais.
On va revenir peut-être sur ces mesures, alors sur ce qu'il y a ou pas dans le programme du Nouveau Front Populaire, et puis sur les 12 que vous proposez, peut-être un peu d'abord de manière générale et sur la manière dont on peut estimer que la gauche prend ces questions-là au sérieux ou pas. Pendant les dernières années, il y avait un peu cette question de l'antiracisme moral qui était un peu la tradition à gauche de dire voilà, il y a des problèmes de racisme à une échelle individuelle, c'est un manque d'éducation, il faut travailler là-dessus, etc. Là où vous, plein d'autres militants, militantes antiracistes, êtes arrivés en disant il faut passer à l'antiracisme politique et prendre en compte une dimension plus systémique avec un rôle de l'État, des institutions, etc. Est-ce que vous avez l'impression que sur cette question-là, ça a évolué à gauche et qu'il y a maintenant une compréhension plus large de ce qu'est le racisme, Douce Dibondo ?
Oui, alors disons qu'il y a certains partis donc, qui constituent le Nouveau Front Populaire qui sont plus enclins, en tout cas, à prendre en considération le racisme comme système. Mais ce n'est pas l'entièreté du Nouveau Front Populaire. Et en effet, les résultats, donc le plébiscite du Rassemblement National et de manière plus large de l'extrême droite à ces élections législatives, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, c'est des années, donc déjà un passé colonial, un passé raciste de la France, qu'il faut étudier, qu'il faut mettre dans les programmes scolaires et qu'il faut prendre en compte comme un fait social. Le racisme est un fait social tout autant que l'économie, le féminisme, etc. Donc il faut partir de là. Et ce que nous, on pointe du doigt, c'est que la gauche ne prend pas la mesure et l'ampleur du racisme comme faisant partie, comme étant transversal d'une bonne partie des électeurs et des électrices du front du Rassemblement National et de l'extrême droite en général. Et donc, nous, ça nous semblait plutôt évident. Pour contrer, pour faire front démocratique, pour faire front populaire, il faut absolument que cette question de l'antiracisme soit au cœur de ce front, de cette défense de nos valeurs, des défenses de citoyens, des quartiers populaires, des personnes racisées, etc. Et donc, pour le faire, il ne suffit pas seulement d'essayer de pallier les conséquences en appelant à la devise française, liberté, égalité, fraternité, parce que le vivre ensemble, en effet, on veut tous y tendre. Mais malheureusement, la société française est imprégnée de son passé colonial et imprégnée structurellement. En fait, la société française avantage certaines personnes, notamment les personnes blanches, et en désavantage d'autres. Et pour ça, pour pallier, pour rééquilibrer ces injustices, il faut des lois concrètes. Et c'est pour ça qu'on a proposé des choses applicables dans l'immédiateté. Et aussi, ensuite, des choses qui sont plutôt des lois, des propositions qui sont plutôt sur le fond, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation de tous les corps de métier, pour que l'antiracisme ne soit pas vu comme une question, comme vous le disiez, morale, mais comme une question qu'on peut étudier de manière distanciée, de manière dépassionnée. Parce que la question du racisme se vit désormais comme une insulte et une atteinte morale des personnes à qui on pointe des attitudes racistes, des mots, des paroles racistes. Le fait de pointer du doigt des situations, des propos racistes ne fait pas de vous quelqu'un de profondément méchant et immoral. Bien au contraire, c'est que tous et toutes nous sommes traversés sans cesse par le racisme, par le sexisme, le validisme, etc. Et c'est quand on met des mots dessus qu'on arrive enfin à trouver des solutions et des actions.
Alors, bon, il y a plein de sujets dans les mesures que vous proposez et aussi dans ce que propose le Nouveau Front Populaire. Alors, on ne va peut-être pas avoir le temps de faire toutes les thématiques. Il y a celle, par exemple, des violences policières, dont on sait qu'elles visent avant tout des personnes racisées. Le Nouveau Front Populaire propose de créer des récépissés pour les contrôles d'identité, qui est quelque chose qui est réclamé depuis de très longues années, qui n'a jamais encore été mis en place. Et également de réviser la doctrine sur l'ouverture du feu pour que cessent les morts pour refus d'obtempérer. Vous dites directement, il faut interdire les techniques d'immobilisation, donc c'est quelque chose de très concret, et désarmer la police à terme, c'est ça ?
Oui, désarmer la police, parce qu'on voit bien que le rapport, notamment avec la loi Cazeneuve, en fait, qui a qui a permis malheureusement que le nombre de tirs soit multiplié par 5 depuis. Et ensuite, bon, il y a eu une stabilisation, mais des sociologues ont montré l'impact direct entre la promulgation de cette loi, de la loi Cazeneuve, et le nombre de tirs effectués par des policiers, des agents de l'autorité publique. Et donc cette question-là nous semble fondamentale parce que nous, nos vies au quotidien sont littéralement corrélé à des lois racistes. Pareil pour la loi Darmanin qui, au final, soi-disant pour sécuriser ou en tout cas contrôler l'immigration, a permis une multiplication justement de contrôles d'identité aux faciès et donc potentiellement le risque pour des personnes racisées d'être confrontées à la police, de subir des bavures entre guillemets policières, mais de la violence policière. Et donc tout ça, c'est un continuum. Et donc il faut aller à la racine de ces problématiques, c'est-à-dire les lois qui sont de plus en plus permissives envers l'autorité de la police. Et donc c'était important pour nous que les deux premières mesures, en tout cas les premières mesures, ciblent la violence policière et qu'on on aille aussi justement dans les lois qui ont permis des discriminations, notamment l'abrogation de la loi 2004 pour garantir la liberté du choix d'apparence vestimentaire, qui discrimine beaucoup les personnes donc musulmanes et les personnes religieuses de manière générale. Et on sait très bien qu'il va y avoir une négociation avec le nouveau Front populaire, parce que dans cette constitution-là de ce nouveau Front, il y a des personnes qui sont pour le coup islamophobes, il y a des pensées qui sont islamophobes, même des féministes qui défendent en fait...
Vous pensez à des gens en particulier ?
Là, comme ça en particulier, non, mais c'est vrai que c'est une rhétorique qu'on entend souvent. On a eu vent de pas mal de refus de la part de certaines personnes plus ou moins partisanes, de, par exemple d'Écologie des Verts, etc., sur la question notamment de la loi 2004. Et donc, on sait qu'on va batailler, mais nous, ce sont des questions qui sont éminemment importantes, parce que ces lois-là, elles nous empêchent d'accéder à des logements, à du travail, elles nous ségrègent au niveau géographique. C'est justement une charge raciale qu'on porte parce qu'on a peur que nos cousins, nos frères, nos neveux, etc., soient confrontés très tôt à la police et qu'il en résulte en fait des tragédies. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement abstrait en fait. Les élections, les lois, c'est vraiment dans nos corps, c'est dans nos quotidiens. Et c'était pour ça que c'était important pour nous de confronter le nouveau Front populaire à ces angles morts.
On rappelle effectivement la loi de 2004 donc sur les ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Dans le programme du nouveau Front populaire, c'est juste mentionné la formation des fonctionnaires à la laïcité, sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière comme vision de ce qu'est la laïcité. Un autre sujet qui est présent dans vos mesures à vous, c'est des mesures sur la jeunesse, avec d'une part le fait d'appliquer les recommandations de la CIVIS, donc la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a été rendue l'année dernière, et puis la mise en place d'un programme de réhabilitation judiciaire de la jeunesse. Pourquoi est-ce que c'est un point si important pour vous, cette question-là de la jeunesse, Douce Dibando?
Oui, alors déjà pour la question de l'enfance qui est totalement absente du programme du Nouveau Front Populaire, on voit bien que notre construction, notre premier lieu de sociabilisation, c'est l'enfance et de surcroît à travers le système éducatif, l'école, le collège, le lycée. Et donc pourquoi on parle de la CIVIS ? Il faut savoir que les enfants des quartiers populaires, des enfants racisés qui sont fouillés par la police, on peut... en effet, corréler ça à des agressions sexuelles, parce que normalement, un adulte, peu importe sa fonction, n'a pas le droit d'apposer ses mains pour une fouille sur des enfants, sur des mineurs. Donc, c'est pour ça que cette question de l'enfance aussi, on voulait la mettre en avant, parce qu'en effet, il y a un lien direct, en fait, avec la dignité des enfants. Pour la question pour la question de la jeunesse, la réhabilitation, en effet, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des abus d'autorité, de policiers, de fonctionnaires qui ont autorité en fait sur les citoyens, notamment sur ces jeunes. Et en fait, commencer sa vie, entamer sa vie d'adulte avec des amendes qui ne peuvent pas être payées, avec des amendes arbitraires pour abus de pouvoir, c'est potentiellement en fait tracer plus facilement le chemin école-prison dont on entend parler souvent aux États-Unis, de l'école à la prison, parce que ces jeunes des quartiers populaires, dès la jeunesse, dès leur enfance et dès leur vie d'adulte, de jeunes adultes, sont criminalisés pour le fait d'être racisés. Donc les contrôles, le fait de ne pas avoir de boulot qui conduit plus à une criminalisation pour s'en sortir, donc on va prendre des boulots qui sont pas très légaux et donc ça nous conduit ensuite à un système, à un chemin, à un système judiciaire qui, par la suite, les récidives, etc. En fait, c'est à partir de cette jeunesse-là, déjà, que les chemins de criminalisation sont tracés, que les chemins de discrimination sont tracés. Donc, c'est important aussi que cette question de l'économie, de la juridisation de la jeunesse soit prise en compte sous une approche antiraciste. Parce que ce n'est pas seulement une question de liberté individuelle, c'est aussi comment les corps de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes racisées sont ciblés et sont surcriminalisés, ce qui en fait conduit à une sorte de prophétie autoréalisatrice. Quoi. Si on me voit comme criminel, si je n'ai pas de chance autre que de me débrouiller par des moyens qui ne sont pas très légaux, ben, je vais m'engouffrer là-dedans. Et donc ça, c'est, on veut aussi justement sortir de ces chemins-là pour la jeunesse, notamment la jeunesse des quartiers populaires.
Alors, j'énonce rapidement les autres mesures. On n'a pas le temps de toutes les discuter, mais il y a l'accès aux soins dans les déserts ruraux, la Seine-Saint-Denis et aussi les territoires d'outre-mer, les DROM et COM. Augmenter les salaires sur les métiers du care, du nettoyage, de la surveillance occupée en majorité par des personnes racisées. Établir un comité sur la question des réparations liées au préjudice du commerce colonial et un processus d'autonomisation ou de décolonisation dans les DROM COM, interdire la vente d'armes par la France aux pays accusés de génocide par la Cour pénale internationale, cesser toute criminalisation des actions de soutien à l'autodétermination, la libération des peuples, notamment en Kanaky et en Palestine, la reconnaissance des États, et aussi libérer et amnistier tous les révoltés arbitrairement détenus, prévenus, condamnés pour avoir exercé leurs droits civiques et politiques lors de mouvements sociaux, ce qui comprend d'ailleurs aussi le mouvement des Gilets jaunes dans la liste que vous en faites et les mouvements écologistes. Reconnaître la caravane comme logement, instaurer un ministère composé de personnes concernées dédiées à la lutte contre les discriminations systémiques et maximiser les financements alloués aux structures qui luttent contre le racisme et les inégalités de genre et enfin régulariser toutes les personnes sans papier sur le territoire. Alors ça fait, si on faisait l'écart à chaque fois avec ce que propose le Nouveau Front Populaire, pas mal d'écart quand même entre ce que eux proposent et ce que vous proposez. Cela dit, vous êtes quand même sur une position de dire il faut faire barrage à l'extrême droite, aller voter pour le Nouveau Front Populaire et ensuite discuter avec eux pour que ces mesures-là soient mises en place, pour que les vôtres soient mises en place, Douzi Bando.
Bien sûr, on est totalement dans cette lignée-là, hein, parce que nous n'avons pas le choix, mais il faut comprendre que désormais, ces élections législatives sont un atout pour nous, pour les personnes, les militantes antiracistes, parce que c'est à ce moment-là où on peut faire pression, parce que depuis des décennies et des décennies, nos vécus ne sont pas entendus. La gauche reconnaît notre existence, en tout cas se souvient de nous quand il s'agit d'avoir des actions urgentes, comme c'est le cas maintenant, des élections pivots. Là, les personnes des quartiers populaires et des personnes racisées sont enfin visibles et entendues. Sauf que nous, ce qu'on demande à travers ces mesures-là, c'est de faire partie de la table où sont prises les décisions. C'est de faire partie du processus du début jusqu'à la fin. C'est de ne pas seulement être un combustible pour conduire le train de la gauche et de sa victoire, mais d'en faire partie, d'être dans la salle des conducteurs et des conductrices. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. On vise évidemment le 7 juillet, mais on vise aussi 2027, parce qu'il est hors de question qu'on revive une sidération comme on l'a vécu ces dernières semaines, ces derniers jours. Il est hors de question que nos voix électorales ne soient prises qu'en dernier niveau. Il faut qu'on soit là dès le début. On a la capacité de le faire. Ces mesures, vous savez, on en a le double, mais pour l'instant, on n'en a sorti que 12. En 8 jours, on a fait le travail d'un cabinet ministériel, alors qu'on ne se connaissait pas, alors qu'on est des personnes individuelles avec leurs expertises au niveau du racisme, mais pas que. Donc, imaginez les moyens, si on nous donnait les moyens de concrétiser, d'amender, de faire appel à des personnes dont c'est le métier mais qui n'ont pas accès à ces salles-là de décision. Vous imaginez ? Donc c'est ça qu'on veut montrer, qu'on veut exiger aussi du Nouveau Front Populaire. Oui, nous sommes avec vous, mais désormais, prenez-nous en compte. Soyons des alliés, soyons des partenaires pour une victoire effective pour 2027 et bien au-delà.
Dans les autres moyens de pression, on a vu circuler sur les réseaux sociaux là, un appel à la grève antiraciste et antifasciste pour ce vendredi 5 juillet. Appel en direction des personnes immigrées, binationales, racisées et minorisées pour lutter contre le racisme d'extrême droite et montrer qui sont les travailleurs et travailleuses essentielles de ce pays. Ça a été initié par une metteuse en scène et autrice, Eva Doumbia. Est-ce que c'est quelque chose que vous relayez et qui vous semble être aussi un bon moyen voilà, de faire pression et de montrer aussi l'importance des personnes racisées aujourd'hui en France ?
Oui, oui, tout à fait. En fait, dans l'Assemblée Front Antiraciste, on va diffuser, ou si c'est déjà le cas, là, on va diffuser un appel à une grève militante pour qu'on se rende compte de notre absence et à quel point notre absence est dit beaucoup du fonctionnement de la France, de la société française, à quel point nos corps, nos voix sont importantes et sont intrinsèques au bon fonctionnement de la société française. Donc oui, on s'aligne totalement avec cet appel à la grève qu'on va diffuser.
Peut-être une dernière question puisqu'on voit aussi, ou en tout cas on se dit avec cette augmentation du vote pour le Rassemblement National, que le racisme au quotidien dans la population, il peut lui aussi augmenter. Alors évidemment, il augmenterait si le RN était au pouvoir, mais les actes racistes dans le quotidien, le fait que cette ampleur prise par le RN libère des actes au quotidien de la part de la population, de la part aussi des policiers, comment est-ce que vous, les personnes concernées se protègent face à ça et comment aussi vos alliés peuvent vous soutenir et lutter contre toutes les formes de racisme, y compris au quotidien, Douzi Mondo.
Alors, il faut savoir que donc là, la manifestation de ce harcèlement racial qui devient de plus en plus accru, on l'a toujours vécu depuis nos parents, parfois nos grands-parents, jusqu'à la génération dite de troisième génération d'immigrés. Pour nous, c'est pas vraiment une problématique, c'est pas une surprise. En revanche, ce qu'on demande, c'est qu'on arrête de traiter ces sujets-là comme des faits divers, comme, vous savez, des sujets à visée très émotionnelle. Parce qu'en fait, à partir du moment où on ne traite ces sujets-là, ces faits divers de harcèlement racial, uniquement sous une approche émotionnelle, on ne règle pas la problématique. Il faut que dans les articles, notamment, donc là je parle pour les médias, que la question du racisme soit mise, vous savez, en distance, c'est-à-dire que, OK, il y a ce fait brûlant, cette actualité, mais pourquoi il y a ces mots qui sont utilisés ? Pourquoi cette personne vit ce qu'on lui dit ? Et ça, pour ce travail-là, il faut qu'il y ait des journalistes racisés qui, dans leur chair, ont cette expérience, cette expertise, mais qui travaillent aussi sur le racisme, sur la sociologie du racisme, sur le racisme comme fait social, comme un objet d'étude à part entière, dépassionné, hors d'une certaine moralité, etc. Et évidemment, ça prend aussi en compte la part des alliés, parce que, qu'on se le redise, hein, en vrai, le racisme n'est pas censé nous concerner, nous, les personnes racisées qui le subissons. C'est aux personnes blanches de prendre à bras le corps cette question, parce que ce sont les personnes blanches en premier qui bénéficient de ce système-là, qui, elles, ne sont pas empêchées dans leur vie de tous les jours. Et donc, s'interroger déjà sur de quoi je bénéficie à travers ce système qui est injuste ? Qui sont les personnes autour de moi qui parlent de racisme, qui vivent le racisme ? Est-ce que je me mets à leur place ? Est-ce que j'ai une écoute active ? Est-ce que je prends quelques minutes de mes journées à lire, à écouter un podcast, etc. Vous voyez, en fait, c'est un travail vraiment de fond et pas seulement un travail je relaie quelques paroles sur les réseaux sociaux et j'ai fait mon boulot. Non, c'est un travail aussi de fond au niveau de notre propre subjectivité et c'est un travail qui est très long, c'est un travail de long terme. Et donc, nous, le fait que cette question elle devienne de plus en plus visible, malheureusement, avec le plébiscite du Rassemblement National, ça va nous permettre de mettre la question de l'antiracisme au milieu du village, quoi. Et enfin, on va pouvoir décortiquer avec des outils, des analyses concrètes, avec des faits, avec des concepts sociologiques, etc. Et j'espère que ça ne sera pas juste une tendance, quoi, que ça s'inscrira dans le fond, qu'il y aura des débats de fond à ce propos. Donc j'appelle à tous nos alliés, journalistes, artistes, bref, qui ont une voix, qui ont la possibilité d'introduire les personnes racisées dans des espaces qui ne le sont pas, qui sont majoritairement blancs en tout cas, d'ouvrir en fait ces espaces pour que ce sujet soit enfin pris en compte dans sa totalité.
Merci beaucoup, Douce Dibondo, d'avoir pris ce temps avec nous. Je rappelle que vous êtes militante afro-queer féministe, journaliste, écrivaine avec la charge raciale Vertige d'un silence écrasant et productrice du podcast Extimité. L'appel pour un front antiraciste populaire, il est retrouvé sur le site du journal L'Humanité et il circule aussi pas mal sur les réseaux ces jours-ci. Merci beaucoup, Douce Dibondo.
Merci à vous.
12h35 sur la Clé des Ondes, on continue ce plat de résistance. Dimanche soir dernier, le Nouveau Front Populaire organisait une soirée sur la place de la République à Paris. Des personnalités politiques s'y sont relayées et parmi elles, l'un des porte-parole du NPA, l'anticapitaliste, qui a fait partie de ce Nouveau Front Populaire. C'est Olivier Besancenot qu'on vous propose d'écouter tout de suite.
Chers amis, chers camarades, on m'a proposé de dire quelques mots. Donc moi, c'est Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. On a décidé de faire partie du Front Populaire avec notre particularité qui est un moment extrêmement particulier. Donc on l'a fait en conscience, en se faisant violence, on doit l'avouer, pour qu'une coalition la plus large voie le jour, sans rien oublier, ni des uns, ni des autres. Moi, aujourd'hui, il a été question de penser, évidemment, à ceux qui n'ont pas voté et qu'il faut faire voter. Moi, je voudrais avoir une pensée pour ceux et celles qui n'ont pas le droit de vote dans ce pays. Je voudrais avoir une pensée pour les immigrés, souvent des femmes qui se lèvent tôt, qui charbonnent, qui rentrent tard le soir, qui élèvent seuls leurs enfants, à ces millions de personnes dans le pays, hommes, femmes, enfants d'immigrés, on voudrait vous dire la chose suivante. La France ne se résume pas au score électoral de ce soir. Il existe un pays solidaire. Il existe un pays qui croit en l'égalité des droits. À toutes ces personnes qui tremblent dans leur chair ce soir, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, ça existe aussi, qui se posent des questions, qui nous posent des questions, qui nous disent comment ça va tourner dans les heures et dans les jours à venir. On voudrait vous dire, on va faire bloc, et bloc jusqu'au bout. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les générations militantes qui nous ont précédés. Des générations militantes, lutte de classe, antiracistes, antifascistes, qui ont payé le prix cher de la lutte contre le fascisme et qui doivent, comme nous, là aussi se faire violence. Parce que, amis et camarades, notre responsabilité dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est de résister à l'ère du temps délirant qui fait qu'aujourd'hui, ça se joue entre deux composantes politiques et que la balle est dans le camp de la Macronie. Et que sur les plateaux de télé, il y en a visiblement qui préféraient payer moins d'impôts et surtout ne pas en payer plus du côté de certains présentateurs, quitte à avoir des fachos. La balle est dans leur camp à eux et à elles. Nous prenons nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est de faire en sorte que la peur ne change pas de camp dans ce pays. L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant, résister à l'ère du temps. Et je terminerai là-dessus. C'est combattre cette ambiance politique qui est à gerber. C'est l'aberration orwellienne, pour ceux qui ont la référence de 1984 et de son livre, Le ministère de la vérité, ce ministère du totalitarisme, qui mélangeait les mots, tout est leur contraire. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. La force, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette séquence politique-là où on rend, ni plus ni moins, les chômeurs responsables du chômage, où on rend les immigrés responsables du racisme, où on rend les femmes, du fait de leurs actions soi-disant trop radicales, responsables du sexisme. Tout est à front renversé. Et comme une apothéose politique, le rêve de la réaction et des fachos en tout genre, c'est de dire que l'extrême droite serait antiraciste et que toute la gauche serait antisémite. Il faut tout remettre à l'endroit. Alors oui, on a affaire à un rouleau compresseur, à des chaînes d'infos en continu. Alors je vais vous dire, c'est pas compliqué. Enfin si, c'est extrêmement compliqué. Il faut que chacun et chacune d'entre nous relève la tête dès demain matin, s'adresse à ceux qui aujourd'hui ont le moral dans les chaussettes, et il y en a, faut pas se raconter d'histoire, et c'est pas grave. On a le droit d'avoir des coups de mou. On a le droit de douter. C'est humain de douter. Nous, on n'est pas comme eux, même sur ce terrain-là. Mais il faut leur dire que demain matin, on se transforme, nous tous et nous toutes, en chaîne d'information continue, en contre-chaîne d'information continue, pour que ça soit la victoire. Alors oui, il y a un grand révolutionnaire qui s'appelait Auguste Blanqui, qui a fait quelques révolutions dans le 19e siècle. Et il s'attaquait à ce qu'il appelait les adorateurs du fait accompli, les fatalistes de l'histoire.